La main verte d'Alain Baraton. Bonjour cher Alain.
Bonjour cher Eric, bonjour chère Patricia, bonjour à tous.
Beaucoup de jardiniers se demandent si les fruits du cognassier du Japon sont comestibles.
Et la réponse est oui, mais attention à ne pas croquer dedans à pleines dents, il vous en coûterait comme les vrais coings, ceux qui servent par exemple à faire la fameuse pâte de coing. Les fruits du cognassier du Japon doivent être cuits avant d'être consommés en gelée ou en confiture. À titre personnel, je suggère de les mélanger avec des pommes, cela ne sera que meilleur. On peut aussi en faire de la pâte de fruits ou de la liqueur, même si je pense que la qualité n'égale pas celle du coin traditionnel.
Cognassier du Japon. Est-ce que l'arbuste est vraiment originaire du Japon ?
Oui, et c'est d'ailleurs dans ce pays qu'il a été découvert en 1784. Il est depuis l'un des arbustes préférés des jardiniers, ce qui explique pourquoi il en a été créé plus de 500 cultivars. 500 cultivars, c'est considérable.
500 cultivars, il faut peut-être rappeler ce qu'est un cultivar.
Oui, c'est une variété de plantes obtenues par sélection, mutation ou hybridation naturelle ou provoquée et cultivée pour ses qualités horticoles. Il y a quantité donc de végétaux qui sont des cultivars. Alors à propos du cognassier du Japon, sachez qu'il en existe en fait deux sortes. Le Caenomeles japonica et la variété speciosa. Et c'est cette dernière qui est aujourd'hui la plus présente dans les jardins car elle est la plus robuste. Ce cognassier du Japon est caduque, ce qui signifie que les feuilles tombent à l'automne. Les fleurs sont roses ou rouges, parfois orange ou blanche, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et elles apparaissent avant les feuilles à la fin de l'hiver.
Et pour bien fleurir, cet arbre a-t-il besoin d'être taillé et faut-il le protéger du gel, tiens ?
Le sécateur est le bienvenu, mais uniquement pour supprimer les branches mortes ou gênantes, parce que l'arbre n'a que faire finalement de vos conseils pour bien fleurir. Il est souvent magnifique. Attention quand vous procédez, l'arbuste est redoutablement épineux. Prenez vos précautions. Alors, pas de précaution contre le froid. Il l'apprécie tellement que j'ai constaté que plus l'hiver était rigoureux et plus il fleurissait. Sachez que le -25 ne l'effraie absolument pas.
Ce cognassier du Japon, à partir de quand on va voir ses fruits ?
Oui, alors logiquement après la floraison. Si la floraison est hivernale, vous pouvez penser que les fruits apparaissent au printemps. Il n'en est rien. Il faudra attendre l'automne suivant pour apercevoir des fruits qui peuvent rester accrochés aux branches pendant plusieurs mois, qui ressemblent donc à des petites poires, un peu à des petites poires beaucoup plus petites que les coings traditionnels. Mais il est donc vrai, je le confirme, on peut consommer les fruits du cognassier du Japon.
Vos conseils et vos réponses à présent aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter.
Les réponses, c'est pas toujours tout de suite, quoi. Quelquefois,
oui, il faut attendre parfois une dizaine de jours, mais on les a, une quinzaine de jours. Aline voudrait vous poser une question lexicale. Aline apprend le grec et elle vient de découvrir que Pélargos était le nom de la cigogne. Alors elle vous demande quel pourrait bien être le rapport avec l'appellation latine du Pélargonium.
Eh bien, c'est une erreur que j'ai corrigée pour ce qui me concerne depuis longtemps. Je ne parle plus de nom latin, mais de nom botanique. Il y a une dizaine d'années, un auditeur m'avait repris, il me l'avait vraiment écrit, vous ne cessez de parler du nom latin, mais certaines plantes comme orchidées ont pour origine orchis, qui est un nom grec. Pélargos, c'est un nom grec, donc le Pélargonium, c'est un nom d'origine grecque, ce n'est donc pas un nom d'origine latine, on parle donc du nom botanique ou scientifique. Regardez bien les Pélargoniums quand ils fleurissent, les fleurs se transforment ensuite en graines, et bien quand vous détachez une petite graine, on dirait effectivement le cou et le bec d'un échassier, d'où le nom Pélargonium, qui rappelle bien entendu l'échassier.
Pierre de Bois-le-Roi, mon pommier planté en 2004 n'a pas fleuri l'année dernière et cette année les branches sont toutes sèches et cassantes. Quel est donc ce problème ?
Les arbres sont des êtres vivants, quantité d'éléments peuvent justifier un décès brutal, des produits de mauvaises conditions de plantation, un froid parfois qui dure trop, des inondations dans la terre, et puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, c'est un peu comme nous autres humains, il y a des plantes qui meurent, on est triste, mais c'est ainsi la vie, je ne peux pas expliquer la raison, mais malheureusement, les arbres ne sont pas éternels.
Alors, question de cet auditeur, ils nous l'appelleront Maurice. J'ai dans mon jardin un vieux séquoia de plus de 10 mètres de haut. Or, depuis ces dernières tempêtes, mes voisins me suggèrent avec insistance de couper mon arbre. Question, ai-je le droit de refuser ?
Et bien avant de répondre à cette question, si vous le permettez, un petit mot à propos de Maurice. Maurice, c'est aussi le nom d'un sanglier. Et ce sanglier a été recueilli alors qu'il était tout petit, quelques mois à peine, par une promeneuse qui n'a pas pu s'en défaire. Le sanglier a été soigné. Elle a beau vouloir le remettre dans les bois. Il la suit un peu comme un enfant suivrait sa maman. Et puis quelqu'un, en 2019, a dénoncé la présence de Maurice dans un jardin. Le jardin, il est électrifié, il est clôturé. Maurice ne se balade pas n'importe où. Non, non, non. Quelqu'un l'a dénoncé. Grande spécialité française.
Anonymement.
Anonymement, bien sûr. Le tribunal a ordonné l'exécution de cet animal. C'est complètement dément. Alors, j'en parle parce qu'il y a un site internet Sauvez Maurice qui existe. C'est le site Facebook, pour ne pas le citer. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Mais on suivra quand même cette affaire parce qu'en période où, justement d'épidémie où on parle un petit peu d'être un peu plus proche entre nous, qu'on arrête peut-être ce genre d'absurdité, il y a peut-être d'autres priorités aujourd'hui que de massacrer un petit animal qui ne demande qu'à vivre.
Il faut sauver Maurice.
Tout à fait. Et le séquoia lui aussi ne demande qu'à vivre.
Alors voilà, cet arbre. Est-ce qu'on peut refuser de couper son arbre?
À la condition qu'il n'empiète pas sur la propriété de du voisin. Là, même une branche, le voisin peut exiger de la couper. Mais si l'arbre est à planter à plus de 3 mètres de la limite séparative, oui, l'arbre a toutes les raisons d'être. Et puis soyons honnêtes, un séquoia de 10 mètres, ce n'est pas du tout une menace. C'est un problème parfois pour la foudre. On n'y pense pas, la foudre peut tomber dessus. Mais il n'y a aucun danger pour la maison d'à côté. Ce séquoia, soyez que le voisin soit tranquille, son espérance de vie n'est que de 3000 ans. Donc il devrait être tranquille.
Et dernière question de Cédric, qui a un vieux romarin qui s'affaisse et gêne le passage, paraît-il. Peut-on mettre un système de tuteur pour ce vieux romarin ou est-ce qu'il faut le tailler?
On peut mettre un système de tuteur car si on le taille, on va toucher le bois mort. Si c'est un vieux romarin, or le romarin ne fait pas de jeunes pousses sur le bois mort. Donc il y aura un côté très disgracieux. Donc oui, on peut mettre un petit tuteur pour le redresser, bien évidemment.
Puis on termine.
C'est l'occasion de lire. Vous avez compris qu'en ce moment, on ne peut plus faire grand-chose. Mais la lecture, elle, existe toujours.
On va bouquiner.
Voilà. Je chemine avec Gilles Clément. C'est un entretien passionnant mené par Sophie Huillier. C'est une discussion avec cet homme paysagiste à qui on doit le jardin Mouvement, qui a créé le jardin Parc André Citroën et quantité d'autres lieux délicieux comme les jardins du Rayol sur la Côte d'Azur.
Et homme merveilleux par ailleurs.
Tout à fait. Et un homme qui a su s'attirer, j'allais dire, les remerciements de toute la jeunesse qui se destine au métier de paysagiste. C'est vraiment un grand monsieur. Je chemine avec Gilles Clément, donc par Gilles Clément, et c'est publié au Seuil, et je vous rappelle la page Facebook Sauvez Maurice.
Sauvons Maurice. C'était la main verte d'Alain Baraton. Merci Alain et à samedi prochain.
À samedi.